Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro exceptionnel, un hors-série. Nous réalisons occasionnellement ces épisodes pour aller à la rencontre d'une actrice ou d'un acteur de l'actualité dans le Grand Sud-Ouest. À notre micro aujourd'hui, Alma Ménager, bonjour.
Bonjour.
Avant de commencer cette interview, je voudrais prévenir nos auditrices et nos auditeurs qu'il sera question de violences sexuelles et donc les inviter à ne pas poursuivre l'écoute si le sujet est trop difficile pour elles ou pour eux. Alma, vous avez 20 ans, vous étiez étudiante en troisième année à Sciences Po Bordeaux et vous allez vous rediriger en psychologie dans quelques mois. Votre ancien compagnon vous a violé quand vous aviez 18 ans et cet épisode était en une de Libération le 8 mars dernier. Le quotidien publiait alors votre témoignage mais aussi la lettre de l'homme qui vous a violé et ce choix éditorial a fait couler beaucoup d'encre, il a été très contesté. Nous allons revenir sur tout cela en détail, nous avons souhaité vous laisser la parole pour présenter votre témoignage et au-delà de ce cas particulier, tenter de comprendre les leçons que l'on peut en tirer. Mais d'abord un mot sur l'actualité la plus récente au sujet de cette affaire. Il y a quelques jours, vous avez choisi de déposer plainte contre votre agresseur. Qu'est-ce qui vous a convaincu de franchir ce pas que vous n'aviez pas franchi jusque-là ?
En fait, déjà, tout s'est passé tellement vite entre ma prise de conscience et ma béatisation, parce que je m'en suis rendu compte mi-janvier, et j'ai témoigné 5 jours après sur Sciences Po Bordeaux, et j'ai été contactée par des journalistes quelques jours après. En fait, j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à ça. Tout était trop rapide. Et je suis toujours en choc post-traumatique et je sais pas, j'avais pas vraiment réfléchi à ça. Et puis en fait, c'est quand il y a eu la question de Libération qu'il a été question justement du fait que Samuel s'exposait à des risques de prison, hein, il risque 20 ans de prison, et que Libération n'allait pas pouvoir protéger son anonymat. En fait, avec Samuel, je l'ai recontacté pour la première fois par téléphone, parce qu'on s'est changé par lettre, mais voilà. Et en fait, ce moment où il a hésité, en fait, parce qu'il se rendait enfin compte de ce qu'il risquait, alors qu'il avait eu 2 mois pour le faire, mais bon. Et en fait, quand il a hésité, je me suis rendu compte que moi, j'avais vraiment envie d'un procès. J'avais besoin de ça, pour plein de raisons. Parce que, de manière symbolique, d'abord. Mais du coup, quand il a commencé à hésiter, je me suis rendu compte tout de suite. Hein, j'ai dit, mais de toute façon, que tu témoignes ou pas, moi, j'ai porté plainte.
Ces raisons, on va y revenir dans quelques minutes, mais d'abord, on va évoquer aussi le traitement médiatique, bien sûr, de cette affaire, de la façon dont vous l'avez vécu et le chemin dans lequel vous êtes aujourd'hui engagé, notamment celui du militantisme. Comme dans la plupart des viols, votre agresseur n'était pas un inconnu pour vous. Vous l'avez dit, c'était un de vos proches, comme c'est le cas dans 91% des viols, si l'on en croit un rapport rendu en 2018 par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était même votre compagnon. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez mis du temps à mettre le mot viol sur cette agression ?
Alors, ça joue, mais je pense que la principale raison, c'est tout simplement qu'on n'a aucune éducation sur le consentement, sur le viol. Qu'on a une représentation du viol qui est hyper fantasmée, du mec dans la ruelle sombre qui t'agresse comme ça, qu'on connaît pas. Alors que c'est pas du tout le cas. Qu'en fait, un viol, il suffit que le consentement ne soit pas respecté, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et que la plupart des violeurs, c'est des gens avec qui on partage des moments et c'est ça qui est d'autant plus difficile, c'est que c'est inconcevable, parce que c'est trop gros de se dire que la personne qu'on aime, en l'occurrence Samuel, la personne qu'on aime le plus au monde, dont on est follement amoureuse, a pu nous faire ça, quoi. Et que c'est la raison de notre mal-être depuis des années.
Vous aviez connu Samuel au lycée, comment se passait votre relation ?
Écoutez, au début, très bien. Je l'ai rencontré en première et on s'est mis officiellement ensemble en terminale. Et c'était un garçon très, très timide, très doux. Dans notre relation, on a trouvé un peu un havre de paix où on pouvait s'exprimer, on pouvait être quelqu'un. On était compris, on était écoutés, on était admirés, on était aimés. À une période de nos vies qui n'était pas facile pour tous les deux. C'est une relation très, très, très forte et très fusionnelle. Avec le recul, je me rends compte vraiment beaucoup trop, en fait, parce que c'était vraiment... Il représentait mon bonheur, en fait. C'était vraiment une relation très forte et j'étais clairement indépendante affective de lui et j'aimais de tout mon être. Mais c'était une très très belle relation. C'était vraiment quelque chose de très fort. On parlait de tout, on parlait beaucoup de nous, en fait. Mais énormément. On était très très honnêtes. Enfin, du moins, je le croyais.
Ce n'est certainement pas à vous de l'expliquer, encore moins de le justifier, mais vous avez forcément tenté de le comprendre. Comment on peut passer d'une relation en apparence aussi idyllique à ce qu'il s'est passé ?
Alors, j'ai pas dit que notre relation était idyllique, parce que, au contraire, elle participait à camoufler notre mal-être, en fait. Et donc, comment on passe de... Comment on fait pour violer ça, quelqu'un qu'on aime ? Ben, c'est la question qu'on a essayé de... on a essayé de répondre durant la confrontation quand je suis allée porter plainte. Donc après sa garde à vue, là, enfin pendant sa garde à vue, je comprends pas. En fait, il y a plein de choses qui viennent en tête. C'est le fait qu'il lui-même a été victime pendant plusieurs années de Pierre-Marie Dizier, qui a violé des dizaines et des dizaines d'enfants, qui était chef de chœur au conservatoire. L'affaire est sortie en 2018. Je sais pas, je pense qu'il y a... il y avait tout un contexte, le fait que c'était... il venait juste de me dire qu'il pensait plus m'aimer, je sais pas en fait, je pourrais pas l'expliquer moi-même, ça me dépasse en fait, et c'est bien quelque chose que j'aimerais avoir une réponse un jour, mais je pense que malheureusement il y a plein de choses qui s'entremêlent, et en même temps bah, il y a juste un moment, il a pété un câble et c'est arrivé.
Le soir de votre viol, vous dites vous être senti vidé. Même si vous n'avez pas immédiatement mis ce mot-là, de viol, vous avez compris tout de suite que ce qui venait de se passer était très grave.
Quand il m'a violée, donc quand il m'a quittée, donc en avril 2019, j'étais, je pense, en dépression. Enfin, à l'époque, je n'avais pas du tout le diagnostic, mais j'étais déjà dissociée, en fait. Et du coup, j'étais incapable de comprendre ce qui se passait. Quand il m'a violée, je comprenais qu'il s'est passé quelque chose de pas normal parce que moi-même, j'avais ressenti énormément de haine envers lui, chose qui n'était jamais arrivée avant. Et parce que vraiment, quand il m'a violée, je me suis battue toutes mes forces et je voulais lui faire du mal, hein, de mon côté également. Mais oui, je savais que je voulais pas, mais... Enfin, je lui ai dit d'ailleurs, après le rapport, quand j'ai enlevé ma ceinture, parce qu'il m'avait attaché les mains avec... Je lui ai dit, mais je crois que j'étais pas Enfin, non, je lui ai dit, je crois que j'en avais pas envie. Quelque part, au fond de moi, je le savais parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai écrit un texte justement sur le consentement qui décrivait la scène dans tous les détails, où je me mettais dans la peau d'un violeur. Et en fait, c'était lui. Mais j'ai jamais. Je mettais le mot viol pour les personnages, mais pas pour moi. Et c'est assez fou quand on y pense en fait. Parce que c'est vraiment une dissociation totale de ce qui m'était arrivé à moi et de ce que je racontais dans ce bouquin, enfin dans cette scène en tout cas. Et je sais pas, je pense que c'est aussi le fait, c'est tellement inconcevable de dire qu'on a été violé, qu'on est une victime, que l'homme qu'on aime est un monstre, en tout cas elle a été le temps de ce drame, que c'est... C'est trop, en fait. Du coup, on coupe tout et on se dit non, c'est pas possible. Et puis, on met dans le déni, mais... Je savais qu'il s'était passé quelque chose d'anormal, j'en avais parlé autour de moi, mais sans jamais mettre le mot viol dessus.
Ce texte, vous l'avez d'ailleurs appelé le consentement, comme l'a fait Vanessa Springora au sujet des viols qu'elle avait subis elle-même par Gabriel Matzneff. Hein, c'est ça, vous aviez donné à lire également ce texte à Samuel, je crois.
Oui, alors... Oui, j'avais vu qu'il y avait un texte qui circulait, qui s'appelait comme ça, mais... Je ne savais pas du tout que c'était cette personne-là. Oui, bah, je lui ai envoyé un an après, donc quand je rentrais d'Argentine en mars, juste avant le confinement, juste en mars 2020, je lui ai envoyé. On venait juste de se revoir. Je l'ai envoyé et il m'a rappelé le lendemain en me disant on n'en a pas parlé, il faudrait qu'on en parle et tout. Et en fait, moi, je suis partie dans le délire sur une thèse sociétale en parlant oui, la zone grise, c'est compliqué, tout ça. Et à aucun moment, Samuel a recentré le sujet sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Donc il m'a laissé disserter là-dessus, délirer complètement sur un truc qui en plus n'existe pas, parce que la zone grise, ça n'existe pas quand on est féministe, on le sait. Donc c'est encore un truc qui est inexplicable. Pourquoi il m'en a pas parlé à ce moment-là, alors que je lui avais envoyé un texte sur le consentement, où je décrivais une scène où le personnage, c'était lui, et il y avait tous les détails de ce qui s'était passé cette nuit-là. C'est encore une fois des questions qu'on a posées durant la confrontation. Et sa réponse n'est pas très concluante.
avez donc rompu le lendemain avec votre agresseur. Ce viol s'est passé en avril 2019. Vous l'avez raconté en janvier dernier à une amie, puis sur le groupe Facebook des étudiantes et des étudiants de Sciences Po Bordeaux. Entre-temps, vous avez connu des crises d'angoisse, de colère. Vous avez dû être hospitalisé pour dépression, c'est ça ?
Juste un petit détail, mais c'est Samuel qui m'a quitté hein, le lendemain, c'est pas moi. Et oui, j'ai été hospitalisée, du coup, en fait, quand je suis rentrée en France en 2020, donc après ma mobilité que j'ai passée en Argentine pendant 8 mois, j'ai revu Samuel et tout de suite, je me sentais hyper bizarre, hyper angoissée, mais je pensais que c'était l'euphorie de le retrouver. Et en fait, à chaque fois que je le revoyais, pendant tout l'été, j'étais dissociée, je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'avais peur, j'ai l'impression que chaque mot qui sortait de sa bouche allait me blesser. Chaque mot qui sortait de la mienne était un danger. J'avais mon cœur qui s'accélérait quand j'entendais ses pas qui venaient à moi dans la chambre. C'était horrible parce que j'avais besoin de le voir, je voulais le voir, je l'aimais. Et en même temps, quand je le voyais, j'étais pas là. J'avais peur, j'étais terrorisée. Et en fait, en août, on a décidé de ne plus se parler, en septembre. Suite à ça, parce que j'en pouvais plus de ses angoisses. Et puis lui, parce qu'il en pouvait plus aussi, de les subir. Et je pensais que ça allait m'aider. Et en fait, non, ça a été de pire en pire. Je suis rentrée en dépression. Et je n'ai pas mis le mot dessus au début. Je ne savais pas, hein, je ne comprenais pas. J'ai l'impression d'être folle. Et du coup, j'étais... Enfin, au fur et à mesure des mois, ça s'est empiré. Puis en décembre, j'ai failli mettre fin à mes jours. Et j'en ai parlé à ma mère, qui est psychiatre, et qui m'a envoyé voir ma médecin généraliste, qui m'a tout de suite dit, là, il faut se faire hospitaliser, c'est trop grave. Donc ça a duré jusqu'à... Je suis sortie de la clinique en début mars, donc je suis restée 3 mois.
C'est à ce moment-là, en décembre, janvier, que vous avez réussi à en parler donc à votre ami, et puis ensuite que vous en avez parlé sur ce groupe Facebook des étudiantes et étudiants de Sciences Po. Qu'est-ce qui a été le déclic justement pour ouvrir cette parole-là ?
Il n'y en a pas eu, hein. C'est juste que depuis que je m'en étais rendu compte, ça fait 5 jours que je n'arrivais plus à manger, plus à dormir, j'étais enragée. La réaction des gens que j'appelais était pitoyable, mais vraiment c'était révoltant. Et puis il y a eu un psychiatre à la clinique qui m'a dit des choses horribles alors que je venais juste d'apprendre des choses très graves sur mon père. Qui m'a dit des choses en mode c'est n'importe quoi, il peut pas avoir autant de femmes violées, c'est votre façon de gérer le traumatisme, ça veut dire quoi, on peut plus prendre sa fille par la taille, enfin des choses vraiment complètement à côté de la plaque, et c'était vraiment moi l'hystérique, c'est moi qui comprenais rien, c'est moi qui était folle. Et je suis sortie de là, j'ai pleuré de rage et puis en même temps... Quelques jours avant, j'avais parlé avec quelqu'un de Sciences Po qui m'avait aussi raconté son viol. Et je me suis rendu compte qu'en fait, combien c'était partout, mais que les gens, ils se rendent pas compte parce que les gens parlent pas. Et Sciences Po, c'est vraiment le tabou. Et j'avais une colère contre Sciences Po, contre cette bienséance hypocrite. Enfin, on croit vraiment que c'est ça la réalité. Enfin, je sais pas, j'étais juste enragée en fait. Et c'était vraiment un gros fuck. C'était un pavé jeté dans la mare. Il y a aucune. Aucune préméditation, hein. Ça faisait 2 jours que je voulais témoigner, enfin que je pensais à le faire, mais je l'ai vraiment fait comme ça sur un coup de tête, quoi.
Quoi qu'il en soit, votre témoignage sur ce groupe Facebook a permis une libération de la parole, et sans doute aussi d'ailleurs de l'écoute, et notamment autour du hashtag #SciencesPort. Nous en avons parlé dans un épisode de podcasting. Vous vous attendiez à lire autant de témoignages ?
Je m'attendais à rien, non. Mais en fait, j'ai pas été surprise. En fait, j'étais surprise qu'il y en ait autant, mais j'ai pas été surprise de découvrir qu'il y avait autant de femmes qui avaient vécu ça. Je pense qu'à partir du moment où il y a eu... Parce qu'après mon témoignage, on a eu une de mes amies qui a témoigné aussi, et après une troisième personne sur l'inceste. Puis en fait, à partir de là, j'ai su que c'est parti, quoi. Donc j'étais plutôt surprise pour les premiers, après non.
Quelques semaines après la publication de votre témoignage sur cette page Facebook, et alors que vous étiez toujours à l'hôpital, une infirmière vous a apporté une lettre de votre violeur. Quel sentiment vous a inspiré cette lettre ?
C'était incroyable. J'étais... Alors quand je l'ai reçue, j'étais hyper angoissée, enfin vraiment, j'ai une crise d'angoisse et tout, enfin, et je voulais vraiment la lire seule. Et je suis sortie dehors, parce qu'il y a un parc à la clinique, et je suis allée me poser vraiment à l'écart. Et j'ai lu la lettre au soleil, et c'était incroyable. Ça m'a apaisée de fou. C'est, je sais pas, lire ces lignes écrites par lui, où il reconnaissait tout, où il... où lui-même se rendait compte de plein de choses sur son propre viol. Je sais pas, c'est là en fait où aussi je me suis rendu compte combien la reconnaissance des torts, elle est tellement importante, et moi ça m'a énormément apaisée. Enfin vraiment, ça faisait des semaines que j'avais mal au ventre, j'étais angoissée, j'étais malade quoi, j'étais en train d'en mourir, enfin, j'avais maigri, enfin tellement, en quelques semaines. Et lire Céline, ça m'a vraiment apaisée, c'est comme si... j'acceptais en fait, ok, c'est arrivé, et le fait de lire vraiment une ligne écrite par lui comme ça, c'était très 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 fort, vraiment je pourrais pas expliquer, mais d'un coup j'étais détendue, c'était incroyable.
Quelques jours plus tard, votre violeur a donc envoyé une lettre à Libération. Est-ce qu'il vous a prévenu de sa démarche ?
Oui, et il a envoyé un message à ma meilleure amie, parce que moi je refusais d'avoir des appels ou des SMS, on échangeait que par lettre. J'étais pas prête à avoir un contact direct avec lui, donc il a envoyé un message à ma meilleure amie pour lui dire que son témoignage avait été reçu par Libération et qu'ils acceptaient de publier la lettre, mais sous réserve de me contacter, et d'avoir mon accord évidemment. Du coup, et moi je savais, enfin j'avais parlé à des amis en commun qui m'avaient dit qu'il était en train d'écrire un témoignage, donc je savais que... il était en train de faire ça. Et donc après, j'ai été appelée par la journaliste qui m'a contactée le lendemain. Et on a parlé tout ce qui a été dit dans l'article après.
Libération a donc publié cette lettre avec votre accord, bien sûr, vous venez de le dire, et en vous laissant la parole. Pour quelles raisons avez-vous accepté ?
Déjà parce que je le voulais de base. Ça faisait des semaines que je demandais à Samuel de témoigner. Et c'est justement, on en vient à la démarche de tout violer, c'est que pour moi, c'est essentiel que les violeurs témoignent. Alors, on est d'accord, pas en une, hein, pas forcément dans Libération, assez clair. Mais c'était hyper important que Samuel témoigne en tant que violeur et qu'il le fasse, quoi. Et que ce soit entendu, lu. C'était hyper important pour moi. Parce que justement, je milite pour ça, pour que qu'en fait, les violeurs reconnaissent ce qu'ils ont fait, reconnaissent leur crime. Ça ne veut pas dire leur donner le pardon. Ça, personne ne peut le donner, à part la victime. Mais ça veut dire qu'on reconnaît ce qui s'est passé, et que en étudiant ce qu'ils disent, en étudiant leurs témoignages, on peut se rendre compte de combien c'est partout, et ça peut arriver à n'importe qui, de violer.
Vous disiez pas en une... pas dans Libé, pourtant cette lettre est parue le 8 mars, qui est la journée internationale du droit des femmes. Elle est parue en une, il y a lié à cette date, mais surtout dans le fond, un choix éditorial de Libération qui a beaucoup choqué, avec près d'un mois de recul. Quel regard portez-vous là-dessus ?
Alors moi je tiens à dire et redire que ni la journaliste, ni Samuel n'avons notre mot à dire sur la une, qui a été faite un 8 mars en plus. Enfin moi je trouve ça scandaleux, hein, comme tout le monde, parce que c'est n'importe quoi, surtout qu'ils l'ont mis au début en mode abonné, donc... les gens voyaient juste ça, mais vous ne pouvez même pas accéder au contenu. Donc ça, c'était vraiment... c'est vraiment scandaleux. Bon, après, ils se sont expliqués après dans d'autres articles, mais bon, le mal était fait. Moi, je sais juste que ça a permis de faire connaître un peu plus Toutes Violées, donc la page que j'ai créée, pour justement relayer les témoignages, et que ça a quand même posé le débat sur la table de qu'est-ce qu'on fait de la parole des violeurs. On est unanime, je crois, presque, hein, la grande majorité des personnes sont d'accord pour dire que c'est clairement pas dans le journal qu'il faut témoigner. Ça, c'est clair. Surtout que Samuel, c'est pas un témoignage qu'il a fait, hein, c'est surtout un manifeste. Enfin, il dit qu'il a violé, mais voilà. Il se justifie quand même beaucoup. Mais ça a quand même posé la question de pourquoi les violeurs ne témoignent pas, et pourquoi on n'est pas prêt à les entendre, en fait. Et ça, pour moi, c'est les questions les plus cruciales, en fait. Parce qu'on ne pourra pas se... S'il n'y a que les femmes qui parlent, malheureusement, ça ne suffit pas. C'est difficile à entendre, mais malheureusement, le fait est que ça ne suffit pas. Elles ne sont pas bien prises en charge, elles ne sont pas crues, alors que enfin, le consentement, c'est hyper subjectif, donc pourquoi on remet en question un subjectif d'une personne? Enfin, c'est aberrant et c'est tellement... c'est d'une telle ampleur que c'est insupportable de se dire que d'une part, il y a des victimes qui ont vécu l'enfer et d'autre part, il y a des gens qui juste vivent leur vie tranquillement et ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait et ne veulent pas entendre parler. Enfin, moi, je crois vraiment que pour avancer, il faut vraiment que les violeurs témoignent, les agresseurs et toutes les personnes qui ont commis du mal autour d'eux, qui s'en rendent compte qu'elles témoignent. Ça ne veut pas dire se justifier, mais témoigner.
Justement, sur le fond, vous en avez pensé quoi de cette lettre de Samuel à Libération ?
Alors, moi, quand je l'ai reçue, parce qu'il me l'a envoyée avant de la publier, quand je l'ai reçue, elle m'a beaucoup apaisée parce que je l'attendais depuis des semaines et que j'en avais marre. J'avais vraiment besoin de la lire, de savoir que ça y est, c'était écrit, c'était là. Par contre, en fait, avec le recul, je sais pas. À vrai dire, je sais pas trop quoi en penser de cette lettre parce que au moment où je l'ai lue, j'étais encore beaucoup trop amoureuse de lui en fait, beaucoup trop sous son emprise. J'avais pas de recul. J'étais dans la lettre, il dit des choses. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, mais c'est le ton qui me dérange et c'est le fait que celui qui le dise, ça dérange aussi. Aujourd'hui, je pense que cette lettre me met mal à l'aise parce que je revois dedans le ton qu'il emploie aujourd'hui pour se justifier en faisant des grandes envolées lyriques sur tout le reste, sur la société, sans aucunement se rendre compte en fait du mal qu'il a commis et qu'il a commis lui. Bien sûr qu'il y a d'autres responsables, enfin c'est clair. Hein. Moi, je suis la première à me persuader. L'éducation, le fait que ses parents l'aient pas. L'ai pas fait suivre par un psy après son viol, etc. Enfin, ses viols. Mais c'est lui qui m'a violée.
Mais est-ce que la parole des violeurs, notamment la parole publique, peut être autre chose que des justifications ?
Oui. Enfin, se justifier, ça... Pour moi, c'est vraiment chercher à se dédouaner, en fait. Donc, ça dépend après la définition qu'on en donne, mais... non, pour moi, ce qui est important, et dans tout violer, ce qu'on a relié, les quelques témoignages qu'on a reçus de violeurs, c'est vraiment, ils témoignent de ce qu'ils ont fait. Et ils parlent aussi de leur prise de conscience. Pour moi, c'est deux choses très essentielles, et c'est pas pour ça que dire qu'on n'a pas été conscient du mal qu'on a fait, pour moi, c'est pas justifié. C'est, dans beaucoup de cas, c'est un fait. Et ça, c'est aussi difficile à entendre, mais oui, je pense que beaucoup de gens violent sans s'en rendre compte, sans en avoir conscience. C'est un fait. Enfin, vraiment, j'en suis persuadée. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est pour ça que c'est aussi... que c'est aussi généralisé, quoi.
Alma, nous l'évoquions en introduction, il y a quelques jours, vous êtes rendu au commissariat pour déposer plainte. Il y a eu aussi la garde à vue, depuis, de Samuel. D'abord, comment s'est passée votre démarche ? On sait qu'elle est souvent difficile hein, pour les femmes violées.
Ah mais moi, quand j'y suis allée, c'était horrible. Hein. J'avais super peur. C'était vraiment... Donc ma mère m'a accompagnée. J'arrivais à peine à faire 3 pas sans avoir envie de vomir. Enfin, j'étais super angoissée. Et en fait, j'étais prise en charge par un brigadier, vraiment je le remercierai jamais assez, je suis extrêmement reconnaissante de l'accueil qu'il m'en a fait, parce qu'il a été très 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 compréhensif. Je tiens à dire qu'il savait pas du tout qui j'étais au début, hein. Il avait pas du tout entendu parler de cette histoire, donc c'est pas parce qu'il a reçu des ordres d'être bienveillant, non, je vous assure que non. Il a été très choqué en lisant le témoignage de Samuel, il comprenait, il découvrait quoi. Et il a été très, très, très humain, vraiment. À chaque fois qu'on s'appelle, il est toujours là à me demander comment je vais, si c'est pas trop dur pour moi, à me rappeler que je suis obligée de rien, que par exemple la confrontation, j'étais pas obligée, mais que je l'ai tenue à la faire. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Et en fait, ça m'a vraiment redonné de l'espoir, en fait, de me dire qu'il y a quand même des personnes qui sont humaines et qui sont compréhensives par rapport à notre vécu. Mais en même temps, ça m'a confirmé aussi l'ampleur du problème, c'est-à-dire que ils reçoivent pas de formation, donc ça peut être n'importe qui. Donc là, je suis tombée sur quelqu'un de bien, sur quelqu'un qui est un peu au courant des réalités, mais j'ai tellement de témoignages de personnes qui sont allées à la police et qui ont été très très mal reçues, leur plainte a même pas été enregistrée, ils ont jamais été rappelés, enfin, c'est assez scandaleux et c'est clairement lié au fait qu'ils ont aucune formation. Donc ils recrutent n'importe qui, donc c'est n'importe qui nous reçoit.
Il y a eu aussi la confrontation, vous l'avez dit, elle est toute récente, elle a eu lieu avant-hier. Nous enregistrons cet épisode le 2 avril. Comment s'est passé ce moment ?
Je pourrais pas mettre de qualificatif dessus parce que franchement, c'était n'importe quoi. Enfin, les justifications de Samuel sont floues. Il prenait toujours 3000 ans pour répondre. Et ce qui est apparu flagrant, et enfin moi, c'est ce que j'ai pu lui poser des questions aussi. Il s'est avéré qu'en fait, il a des doutes depuis le début, donc depuis le viol, parce que je lui ai dit tout de suite après, je crois que j'en avais pas envie. Et il m'en a pas parlé à aucun moment, même quand je lui ai envoyé le texte sur le consentement. Et par contre, il en a parlé à un de ses amis l'été dernier, donc en 2020. Quand j'étais en pleine crise d'angoisse. Et à aucun moment, il a parlé de ma souffrance, quoi. À aucun moment, dans la confrontation, ça a été évoqué, en fait. Et même le policier, à un moment, lui a dit, mais vous pensez à elle, un peu ? C'est vraiment... on dirait que je suis une victime collatérale, quoi. Donc, en fait, moi, ça m'a fait du bien de voir... Bah, déjà, d'une part, qu'il n'y ait pas les faits. Après, il pouvait difficilement le faire, vu tout ce qu'il y avait contre lui. Y compris ses propres témoignages et ses lettres. Mais d'un autre côté, c'était vraiment, c'était très difficile, ça m'a mis très en colère d'entendre Samuel disserter comme ça sur mon viol, de te faire des grandes envolées lyriques pour justifier que non, il n'était pas vraiment lui-même, machin. Enfin, pendant la confrontation, il y a plein de fois où j'ai failli péter un câble, lui dire mais tu te fous de moi, enfin, qu'est-ce que tu racontes là ? C'est n'importe quoi ce que tu dis, tu te rends compte ? Là, ça va être écrit dans le procès verbal, que ça va être lu par un juge. Et moi, je suis très inquiète pour lui, en réalité. Hein, parce que, vraiment, je pense que le juge voit ça. Soit il se dit que c'est un manipulateur, soit il se dit que c'est un gros malade. Donc, j'espère, malheureusement, j'espère que ce sera la seconde option. C'est vrai qu'il est malade et que c'est pour ça qu'il m'en a pas parlé. Parce que, je sais pas, il lui manque des gaz liés à son viol, j'en sais rien. Mais vraiment, un gros manque d'empathie. Et moi, j'avais clairement l'impression... qu'il comprenait rien, qu'il était perdu, soit il a conscience qu'il dit des choses qui n'ont rien à voir, enfin qui part dans un délire complètement what the fuck, soit il en a pas conscience et dans ce cas c'est grave quoi.
Vous nous avez expliqué pourquoi vous avez finalement décidé de déposer plainte. Qu'est-ce que vous attendez de cette démarche ?
On m'a posé la question aussi au commissariat. Alors, qu'est-ce que j'en attends ? Bah, déjà, j'en attends une reconnaissance de ce qui m'a été fait. J'attends justice, réparation. Même si on ne pourra jamais me rendre mes 2 années d'angoisse, on ne pourra jamais me rendre mes souvenirs, on pourra... Enfin, c'est sûr, hein, mais c'est clairement pas ma mère de payer mes psychiatres, mes psychologues, machin, parce que je vais en voir toute ma vie. Hein. Je suis dans un état complètement... je suis traumatisée, je suis très, très, très mal. Mais j'en attends aussi, c'est aussi un geste que j'ai fait pas que pour moi, je pense. Enfin, évidemment, je le voulais pour moi, mais c'est aussi parce que ne pas porter plainte, c'était ne pas permettre à la justice de s'en emparer, et pour moi, c'est hyper important qu'en fait, c'est très important de porter plainte. Enfin, moi, j'ai hésité à le faire, donc je blâme pas du tout les personnes qui le font pas, parce qu'on sait combien c'est une épreuve de plus. Et personne ne devrait avoir à subir un procès à 20 ans. Personne ne devrait avoir à subir un procès tout court. Mais quand on nous a fait du mal, bah, je pense que c'est important de le faire. Et qu'on a de la chance, comme moi, d'être bien pris en charge, moi, c'est vraiment été un soulagement d'être accompagné par ce policier qui est très, très compréhensif et qui m'accompagne quand même, enfin, de façon très, très humaine. Je pense que... Enfin, j'ai aussi envie que mon procès soit politique, en fait. Vu que je suis très médiatisée, je veux aussi que ce soit, ça permette d'aider aussi la cause, entre guillemets. Parce que voilà, c'est... Je sais pas si on peut dire que c'est historique, mais des violeurs, un violeur qui témoigne dans l'IB, ça ne s'est jamais fait. Donc là, ça m'énerve parce que j'ai l'impression de flatter l'ego de Samuel et c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que c'est pas... Il faut bien lui reconnaître ça. C'est un violeur, c'est un... Voilà, il... C'est un monstre sur certains points, mais il a reconnu ce qu'il a fait et ça m'a énormément aidée. Et j'espère que ça permettra à d'autres hommes, enfin, d'autres coupables, de reconnaître aussi ce qu'ils ont fait et de pouvoir permettre aux victimes d'enfin se reconstruire. Parce que je pense que ça aide énormément.
Vous avez co-créé le groupe Toutes et tous violés, TOUSTESVIOLET, notamment sur Facebook et sur Instagram. Parlez-nous de ce groupe et de la raison pour laquelle vous vous y investissez.
Alors moi, quand j'ai créé ça, c'est vraiment... ça devait être, je sais pas, une semaine après le début de tous les témoignages qu'on recevait en masse sur le groupe Sciences Po Bordeaux. Enfin, des étudiants de Sciences Po Bordeaux. Et en fait, c'était clairement que je voulais pas que cette parole, cette libération de la parole, qui était incroyable, hein, vraiment, c'est très 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 fort de voir tout cet élan de solidarité, d'écoute, d'émotions très très fortes, de drame, dans un lieu aussi tabou et aussi froid que Sciences Po, quoi. C'était incroyable. Je trouve ça très bien, hein, mais que l'élite se remette en question, c'est essentiel parce que c'est nos futurs gouvernements. Mais moi, je m'en fous, en fait. Enfin, je m'en fous pas, mais c'est qu'une partie minime du problème, dans le sens où Sciences Po, ben, les personnes qui ont témoigné, elles vont pouvoir aller voir des psys, elles vont pouvoir se faire soigner, se faire prendre en charge, etc. Être accompagnées de diverses manières. Mais moi, je pense surtout à la caissière du coin, à la boulangère, tous ces anonymes, en fait, qui n'ont pas, même pas le temps de se poser la question et qui se font violer tous les soirs par leur mari bourré, quoi. Moi, je pense à ça et en tout cas, c'est comme ça que j'ai... C'est dans cette optique que j'ai créé Toutes Violées, c'est que je voulais vraiment donner cette chance, enfin un espace qui, comme dans Sciences Po Bordeaux, soit un safe space où n'importe qui pourrait s'exprimer en son nom comme il le voudrait, en anonyme ou pas, et qui puisse être écouté, que la parole soit recueillie. Et aussi parce que ça m'a paru essentiel que les violeurs témoignent aussi. Mais que pour ça, il n'y a pas d'espace qui existe aujourd'hui. Après, j'ai à dire que c'est quand même c'est très important de le dire, c'est que c'est quand même un espace créé pour les victimes en tous les cas. Hein. C'est-à-dire qu'on accueille la parole des violeurs, mais c'est dans l'optique quand même. C'est en aucun cas pour glorifier un viol, hein, mais c'est vraiment pour faire en sorte que, par la prise de conscience collective, que tous les témoignages très détaillé qu'on reçoit, on puisse avoir une conscience de se reconnaître dans tel acte, dans tel geste, dans tel ou au contraire, par le geste que a fait le coupable, le violeur, etc. Et se dire, ah merde, j'ai fait ça aussi, comment ça se fait, en fait c'est un viol. Enfin, vraiment de se rendre compte en fait que nos gestes, ils ont une incidence. Mais c'était vraiment pour transmettre ça à d'autres personnes en dehors du cadre de l'élite de Sciences Po.
Vous souhaitez que l'on se questionne davantage, qu'on réfléchisse notamment à l'éducation. Vous considérez qu'il y a une responsabilité individuelle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais aussi collective, un cadre social qui amène, ou en tout cas qui ne dissuade pas suffisamment, certains hommes à violer.
Ah mais totalement, hein, c'est un gros gros scandale et c'est vraiment... En fait, si je me suis rendu compte de mon viol, c'est parce que deux jours avant, j'étais en train de me rendre compte de toute la culture du viol, c'est-à-dire tous les petits gestes qui légitiment ça, qui légitiment. Que ce soit des blagues sexistes, que ce soit des remarques, que ce soit des regards, que ce soit des postures, que ce soit l'écriture, que quand on dit le masculin l'emporte sur le féminin, enfin, c'est pas anodin, ça façonne notre façon de penser, ça vraiment, ça la façonne, et c'est pour ça aussi que moi j'ai pas pu, pendant 2 ans je m'en suis pas rendu compte que j'ai pensé à la zone grise, parce que à aucun moment, à aucun moment dans la rue, on m'invite à me questionner sur mon désir, Et en tant que femme, est-ce que ce que je ressens, c'est normal? Est-ce que ce que je ressens, c'est... ça a de l'importance? Non, non, moi, c'est toujours... ah, qu'est-ce qu'il veut Samuel? Enfin... Et dès que je ressentais quelque chose de fort, c'était toujours... je la refoulais, quoi, parce que non, j'ai pas le droit de ressentir ça, j'ai pas le droit. Et en fait, c'est... Alors même que je suis éduquée, pourtant, je suis façonnée, quoi. Donc, non, non, c'est clair, il y a vraiment un gros manque d'éducation. Moi, je veux vraiment qu'il y ait des formations au consentement, au respect, c'est-à-dire quelles sont mes limites, quelles sont celles de l'autre, aux limites du corps, mais pas que, hein, de l'espace, de la parole. Enfin, on parle pas de tous les sujets avec n'importe qui, parce que ça peut heurter. Et ça, c'est pas du tout pris en compte. La sensibilité des uns et des autres, c'est absolument pas pris en compte. Et c'est pire que regrettable, ça participe à tout ça. Donc il y a vraiment un gros problème dans l'éducation, dans la justice et dans tous nos, dans toute notre culture en fait. Parce que dans la plupart des films qu'on voit, en fait, c'est des scènes de viol. À aucun moment, ils se posent la question de s'ils ont envie de ça ou de ça. Enfin, c'est vraiment... c'est dégueulasse et c'est partout.
De quelle manière vous imaginez voir les choses changer concrètement?
Je veux que chaque personne s'interroge dans chacun de ses gestes, enfin, que ce soit acté, que... Chaque geste qui implique une autre personne doit être pesé et doit être fait dans le respect. Et que le consentement soit juste la consécration du respect. Parce que si on a besoin d'une définition sommaire du consentement, c'est que le respect il est pas du tout, il est pas du tout intégré. Donc moi, je veux pouvoir que voir des films où il y a toutes les minorités sexuelles, même si j'aime pas ce terme, qui sont représentées, des dialogues où il n'y a aucune blague sexiste, où c'est pas l'homme qui est toujours au centre de l'attention, où quand les femmes elles parlent pas que d'hommes. De façon concrète, que dans les écoles, il y a vraiment des programmes scolaires à part entière, hein, parce que pour moi c'est plus important encore que d'apprendre à lire ou écrire, hein, apprendre à respecter, c'est genre le béaba de vivre en communauté, qu'à la police, qu'il soit reçu par des psychologues, que chaque policier qui va être en contact avec une victime soit formé pour répondre. Que les journalistes, enfin que, en fait, tout le monde soit éduqué, en fait.
Est-ce que vos proches ont compris votre souhait de rendre public ce viol? Est-ce qu'ils vous ont soutenu?
Oula, question un peu délicate. Ma mère et mes sœurs m'ont soutenu, oui. Ma tante et mon oncle, enfin, mes tantes et mon oncle m'ont soutenu. Pour ce qui est du reste, non. Non, parce que non. Bah, j'ai une autre affaire en cours qui concerne mon père, sur des faits très 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 graves, et dont on s'est rendu compte exactement, vraiment en même temps. Un hasard, enfin c'est pas un hasard, c'est qu'une prise de conscience en appelle d'autres, et donc c'est, voilà, c'est des sujets très compliqués qui concernent aussi l'inceste, etc. Donc de toute façon, le contexte faisait que déjà, mon père, il était... De toute façon, n'était pas en soutien. Enfin, le premier message qu'il m'a envoyé quand il a vu dans les réseaux que je témoignais pour mon viol, c'est de me dire attention, qu'il porte pas pour diffamation. Enfin, en aucun cas, il m'a demandé comment j'allais. Enfin, c'est vraiment, c'est aberrant. Mais après, de l'autre côté, mes grands-parents complètement à côté de la plaque, à dire des choses horribles comme oui, mais quand même, il est honnête. Enfin, il m'a violé, donc ça changerait en fait, qu'il soit honnête ou pas. Enfin, le traumatisme, il est là. Hein. Ou en mode, oui, certaines femmes, c'est pas très clair, ou des réactions, ou quand c'était des hommes, des fois, qui prenaient très personnellement les choses, parce qu'en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème, c'est qu'il y a vraiment une tension, c'est que, en fait, dès qu'on parle de viol, qu'on met en cause, qu'on pointe du doigt la masculinité et plein de choses comme ça, qui sont complices hein, de ces actes, les hommes se sentent tout de suite concernés, mais agressés, quoi. Et donc, de répondre par la défensive. Ce qui est à la fois rassurant, mais ça veut dire quand même qu'ils ne sont pas indifférents. Mais donc, voilà, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Oui, j'ai quand même eu la chance d'être soutenue. Vraiment. Et je le remercierai jamais assez par ma mère, mes sœurs et par mes amis très proches. Mais c'est clair, c'est que quand on est dans un état comme ça, parce que le viol, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a après. C'est le choc post-traumatique, c'est la prise de conscience, c'est l'angoisse, c'est la dissociation, les troubles alimentaires, les envies suicidaires, la dépression, tout ça. Donc quand on s'en rend compte, on est dans un état tellement mal que c'est là aussi qu'on voit qui est présent ou pas, et qui supporte ça ou pas, qui comprend ou pas, qui a envie de comprendre, qui n'a pas envie de comprendre. Donc oui, j'ai eu de très très mauvaises surprises d'amis très proches, qui j'étais amie depuis le collège ou depuis le lycée, qui qui m'ont dit des choses horribles. Parce qu'ils ne se rendent pas compte et parce qu'ils n'ont pas envie de comprendre, j'en sais rien, mais en tout cas qui n'ont pas du tout su réagir et qui n'ont pas été là, quoi.
Aujourd'hui, Alma, et ce sera mes dernières questions, comment allez-vous? Comment envisagez-vous la suite? Et notamment, de quelle manière imaginez-vous continuer de militer?
De façon très honnête, c'est très compliqué pour moi de répondre à ça parce que je vais très mal. Hein, je vais vraiment très 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 mal. Donc, c'est pas que lié au viol, mais c'est clairement grandement lié au viol. Parce que, pour plein de raisons, parce que quand on est à ce point-là... détruite par des personnes aussi proches de nous, que ce soit mon père ou Samuel, on n'a plus confiance aux gens, quoi. On n'a plus confiance en l'avenir. Moi, je suis en choc post-traumatique, donc j'ai peur quand je suis dans la rue, j'ai peur au moindre bruit, j'angoisse certains gestes, certains mots, quand on dit l'homo ceinture, quand on parle de père, quand on parle de famille, quand on parle d'inceste, quand on parle de plein de choses qui font que la vie, elle est... Enfin, et puis, évidemment... il y a tout le reste, donc c'est-à-dire que moi j'ai eu cette prise de conscience, mais je suis entre guillemets en avance sur beaucoup de gens, et donc du coup je sais qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, va falloir passer par là, par mon vécu, par tout ça, par pourquoi c'est si grave de faire des blagues sexistes et que c'est en aucun cas drôle, d'ailleurs que ce soit homophobe ou raciste, hein, mais que c'est vraiment inadmissible, et donc voilà, c'est compliqué. Après, pour militantisme, moi, j'envisage de créer une association parce que on reçoit beaucoup de témoignages de personnes qui, évidemment, sont très, très mal. Et ce qui est très difficile, c'est de les lâcher dans la nature après, quoi. De les écouter, parfois de les appeler, parce que je propose toujours, moi, quand je reçois des témoignages, qu'on s'appelle, hein, parce que c'est beaucoup plus humain. Mais c'est horrible de se dire qu'après, la personne, souvent, c'est des personnes qui n'ont aucun soutien. C'est aussi pour ça qu'elles s'en ont pas rendu compte avant ou qu'elles n'en ont pas parlé. Donc, heureusement, c'est pas tout le monde, mais il y a une grande partie des personnes qui sont vraiment seules et isolées. Et ça, on s'en sort pas, hein, quand on est isolé. Enfin, moi, déjà, en étant soutenue quand même bien par mes meilleures amies et par ma mère et mes sœurs, malgré tout, c'est horrible. Enfin, je vois pas le bout du tunnel, quoi. Donc, quand on n'a pas de soutien, je n'ose même pas imaginer, en fait. Dans le déni, c'est tout. Et donc moi, j'aimerais vraiment créer une association qui justement fasse le relais entre la prise de parole et ensuite la prise en charge. Parce que des associations, il en existe plein. Il en existe. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément connues et que les victimes, quand elles viennent à nous, il faut déjà accepter le statut de victime. Donc quand elles parlent à nous, elles nous parlent en tant que personne. Mais le statut de victime, aller voir une association, c'est déjà accepter qu'on a besoin d'aide. Et ça, c'est rare, en fait. Et j'aimerais vraiment faire une asso qui sert un peu de chaînon manquant, quoi. Mais bon, c'est pas... J'ai réfléchi, mais... De toute façon, je suis pas en état aujourd'hui à gérer ça, mais voilà. Après, toujours continuer à parler, à militer, dans les médias, à accepter les interviews, à accepter, tout ce qui peut aider pour amener cette parole aux personnes... à tout le monde, en fait. Pour qu'il y ait vraiment une vraie prise de conscience. Et puis après, dans mon entourage, tout simplement, continuer à être à l'écoute, en fait. Et montrer que c'est hyper important. Enfin, la communication et dire que... Montrer qu'on est à l'écoute, c'est, je pense, le plus important. Parce que des victimes, malheureusement, elles sont partout. C'est pas forcément les gens auxquels on s'y attend. Parce qu'en fait, comme il suffit de violer pour être violeur, il suffit d'être violé pour être violé. Et donc, c'est pas écrit sur notre tête. Et souvent, avec le déni, avec le choc post-traumatique, avec la mémoire... Les mémoires traumatiques, c'est pas du tout visible. Donc il faut apprendre aussi, je pense, à repérer tout ça. Mais voilà, être toujours à l'écoute et puis essayer de faire du mieux que je peux pour m'en sortir moi, déjà, parce que c'est pas gagné non plus.
Vous êtes confiante dans la société, dans la capacité de la société à évoluer sur ces points?
Franchement, non. Enfin, je suis confiante parce que c'est possible, la preuve en est, j'en suis l'exemple même, hein. Que par la libération de la parole, il y a plein de choses extraordinaires qui se passent. Donc oui, je suis confiante au fait qu'il y a des progrès, que ça continue, mais je suis pas confiante au fait que ça va être facile et que ça va être là, et que ça va... Non, ça va être terrible. Et puis même si c'est dans plusieurs générations, que enfin le consentement est enfin compris, enfin voilà, moi je suis dans cette génération-là. Et moi j'enrage, hein, de vivre ça, hein. je veux dire, à 20 ans, je suis là, j'enchaîne ma vie aujourd'hui, c'est quoi? C'est les psys, les anxiolytiques, et puis les policiers, quoi. C'est pas une vie à 20 ans. Et Et c'était soit ça, soit je suis dans le déni, quoi. Je suis pas très optimiste. Je suis une battante, mais je suis pas optimiste.
Alma Ménager, je vous remercie infiniment.
Merci.
D'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est la fin de cet épisode exceptionnel de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feignet, Mathilde Leuil, Marion Ruot et Guillaume Cascara. Iconographie et photographie, Magali Maréco. Programmation musicale, Gabriel Taïeb. Réalisation, Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.